Mais l'idole, on l'oublie souvent, c'est une représentation, c'est pas le dieu, la déesse, la quelconque divinité qu'on adore, c'est sa représentation. Un tableau, une statue, une image, c'est ça l'idole. C'était le poster dans la chambre d'ado, les photos découpées d'en haut au podium, les portraits un peu trop posés des acteurs de télé qu'on collait sur un cahier de texte. C'était pas les acteurs en question, en fait, c'était l'image, le sticker, l'aimant sur le frigo. Aujourd'hui, ce n'est plus le poster de Brenda, Brandon ou Dylan, c'est un post sur Facebook ou sur Instagram. Idole, moi j'aime pas beaucoup ce mot parce qu'il ment tout le temps. Il fait semblant d'être une star alors qu'il n'en est que le reflet amélioré. Et je pense qu'il faut interroger ce monde d'idole, de représentation fantasmée, comme le faisait avant tout le monde un certain Jean Genet qui écrivait « Visionnaire, nous occupons nos facultés à nous donner des rôles splendides à travers des vies de luxe. Tellement en inventons-nous que nous restons débiles pour vivre dans l'action. Et si l'une d'elles venait par hasard à se réaliser, nous ne saurions pas en être heureux, car nous avons épuisé les sèches délices et plusieurs fois rappelé à nous le souvenir de leur illusion, des mille possibilités de gloire et de richesse. Nous sommes blasés. Jean Genet, Notre-Dame des Fleurs. »
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Boomerang. À qui ou à quoi mon invité d'aujourd'hui voue-t-il un culte? Lui dont l'objectif a immortalisé les plus grandes idoles des années 60, de Johnny aux Beatles en passant par Françoise Hardy, les Rolling Stones, Claude François, Sylvie Vartan évidemment. Il a également saisi le bouillonnement des années 90 lorsqu'il travaillait au magazine Elle. Il nous fait l'amitié de sa venue ce matin. Bonjour Jean-Marie Perrier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous qui en avez tant photographié d'idoles, qui sont-elles? Où sont-elles aujourd'hui, à votre avis? Y en a-t-il au moins?
Oui, il y en a sûrement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les gens, les médias, les adultes disaient que tous ces jeunes gens n'avaient aucun avenir. Ce qui était fascinant chez ces jeunes gens, c'est que c'était des mômes qui partaient de rien. C'est ça qui me sidérait.
Aujourd'hui, quand même, avec Instagram, j'ai l'impression que c'est à la portée de tout le monde d'accéder à une forme de visibilité, de notoriété, de célébrité, de statut d'idole, en fait.
Oui, mais c'est compliqué de parler de ça parce que idole, j'y crois pas. Moi, j'ai jamais cru. Non, mais c'est un truc
et
de
pourtant,
fan.
On vous appelait l'idole des idoles,
oui,
me disiez-vous.
Oui, bah, évidemment, parce que si vous voulez, on avait avec ce petit journal qui était le premier du genre en Europe, on était le seul lien visuel entre tous ces jeunes gens en France qui tout à coup avaient une nouvelle vie, une nouvelle existence. Ils prenaient il y avait une identité d'un seul coup.
En tout cas, ce que ça dit, Jean-Marie Perrier, c'est le pouvoir dont sont dotées les images. Quel est-il d'ailleurs pour vous le pouvoir d'une image? Là, c'est au photographe que je parle. Que peut une image?
Une image, déjà ce que j'en sais, parce que au fond, moi, j'ai fait dans les années 60, je faisais des images qui étaient faites pour être sur les murs des adolescents. Donc, c'était du spectacle. Donc, c'était surtout pas la vérité. Moi, ce que je voulais, c'était faire rêver et faire du spectacle. Donc, mentir. Pour faire du spectacle, il faut mentir.
Ça veut dire que la force d'une image à l'époque, dans ce que vous faisiez, c'était le mensonge.
Tout était mis en scène et tout était préparé à l'avance et pensé à l'avance. Même celles qui ont l'air vraies, elles sont fausses.
Un monde qui produit trop d'images, dans quelle mesure, à votre avis, est-ce qu'on est encore capable d'accorder à une image l'attention qu'il lui faut, de la regarder vraiment, cette image, sans passer presque immédiatement à la suivante, de la laisser véritablement capter notre attention?
Non, c'est vrai, mais bon, vous savez, vous parliez d'Instagram, moi je m'en sers d'Instagram, depuis 3 ans j'en mets une tous les matins, c'est ma prière du matin. Bon. Et ce qui m'intéresse quand je fais une exposition, c'est de faire plaisir aux gens. C'est pas pour moi, c'est pas pour montrer mon immense talent. D'ailleurs, si j'avais photographié que des pots de fleurs dans les années 60, je ne pense pas qu'on parlerait de mon immense talent aujourd'hui. Donc, si vous voulez... C'est merveilleux, parce que tous les jours, je vois ce qui leur plaît.
Et vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît, précisément? Qu'est-ce qu'il vous faut pour qu'une photographie vous arrête, vous interroge, reste gravée dans votre mémoire?
Vous savez, je vis maintenant, depuis 25 ans, dans l'Aveyron, dans mon village de Villeneuve. C'est une merveille de vivre là-bas.
Allons, si on entre dans votre tête, là, maintenant, Jean-Marie Perrier, quelles images est-ce qu'on verrait en premier?
Ma chienne.
Une photo de votre chienne?
Non, mais des photos, vous voulez dire de quelle époque? Parce que bon, j'en ai des milliers de photos dans la tête.
Il y en a bien une ou deux qui restent, non?
Oui, il y en a, bien sûr, il y en a qui restent. Bon. D'ailleurs, il y en a deux, d'ailleurs, de Françoise Hardy, qui me touchent beaucoup parce que c'est des photos en noir et blanc, ce qui était assez rare. D'ailleurs, je faisais très peu de noir et blanc, parce que c'était fait pour les murs des chambres, donc il fallait que ça soit gai, Mais alors ces deux photos de Françoise, elles me touchent beaucoup parce que dans la première, c'est à Londres en 1963. Et on voit que c'est encore la petite jeune fille de la rue d'Aumale prolétaire qui part de rien, qui sait pas s'habiller encore.
À quoi on voit ça?
Bah, on le voit. D'ailleurs, on voit le manteau un peu, bon, moyen, les chaussures un peu tristes. Et puis, elle a cet étonnement sur le visage de ce qui lui arrive. 3 ans plus tard, il y a une autre photographie que je fais également à Londres. Et là, on voit que Saint-Laurent est passé par là. Et tout à coup, c'est ce que vous appeliez tout à l'heure une idole.
C'est passionnant, Jean-Marie Perrier, parce qu'en fait, vous remettez en question le fait que vous êtes photographe. Ce qu'on ne peut pas remettre en question, c'est le fait que vous êtes un témoin. Vous avez été ce témoin d'une certaine génération, de l'époque de Salut les copains. De quoi est-ce que vous avez eu le sentiment d'être témoin, précisément? D'une insouciance, d'une légèreté?
Oui, non, mais ça, la chance que j'ai eue, surtout à l'époque, c'est de me rendre compte que ce que je vivais est exceptionnel. C'est-à-dire, jamais je vous dirais que j'ai des regrets. En tout cas sur ces années-là, parce que je me souviens exactement, je me disais, putain, c'est pas vrai ce que je suis en train de voir.
Quel jeune homme est-ce que vous étiez, vous, à 20 ans?
Oh, d'abord, j'étais charmant. ensuite, j'étais très bien physiquement, on aurait dû me le dire plus, je m'en rendais pas compte. Maintenant, quand je vois des photos, je me dis, mais pourquoi on me le disait pas mis plus?
Mais de quoi vous rêviez? Quelles étaient vos aspirations?
Ah non, mais alors là, bon, là c'est une autre histoire, parce qu'en fait... Ma véritable inspiration et aspiration, c'était la musique. Bon, il se trouve que j'étais musicien, moi, jusqu'à l'âge de 16 ans. C'était ça, ma vie. Je pensais qu'à ça. J'ai appris tout le jazz, le classique, je composais. J'étais musicien, puis c'était ça, ma vie, point. Bon, il se trouve que, pour une histoire qu'on connaît déjà, à 16 ans, en 56, j'apprends que mon père, François Perrier, n'est pas mon père. Et que mon géniteur est noir, ce qui n'a aucune importance, mais il est musicien, ce qui l'est beaucoup plus. Et donc, comme je ne savais pas qui c'était, j'ai été le voir, à l'Alhambra, il passait, j'ai été acheter ma place, vous voyez la scène, et là j'ai vu un type qui avait à l'époque vraiment un talent fou, il n'est pas le clown comme plus tard, hein, il faisait de la musique, du jazz, et là, j'ai pris dans la tronche, tout ce que j'avais rêvé de faire était là. Il était sur la scène, c'était fait, fini, bonjour, le paquet cadeau, prends-toi ça dans la tête. Et je suis ressorti de là en prenant la décision la plus importante de ma vie et pas forcément la plus intelligente. J'ai dit, je vais ressembler à mon père maintenant, puisque mon père, François Perrier, m'a adopté quand je suis né, finalement. Donc je vais l'adopter, moi, à 16 ans, et je vais être lui, et je vais couper tout ce qui ressemble à l'autre. Et j'ai fermé mon piano pour toujours. Et en fait, si vous voulez, ma vie, elle s'est arrêtée là, en réalité. Tout ce que j'ai vécu depuis, c'est en plus, c'est durable. Et j'ai vécu d'ailleurs une vie de dilettante, parce que rien n'avait vraiment d'importance. Et rien pour moi n'a vraiment d'importance de ce que j'ai fait depuis. Vous comprenez? Donc, j'ai changé de vie tous les 10 ans. J'ai changé de vie, de métier, de pays, de femme, de compagne, de tout. Bon. Parce que ça n'a pas d'importance. De toute façon, c'est raté. Mais oui, j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir raté ma vie, parce que ça m'a fait une vie formidable. Parce qu'imaginez une seconde, quand je voulais être musicien, moi je l'étais, et pour moi, Michel Legrand, il avait qu'à bien se tenir. Hein. Mais peut-être que j'aurais été pas terrible. Donc j'ai eu une vie extraordinaire parce que j'ai raté cette vie.
Et vous vous rendez compte quand même ce que vous avez laissé, Jean-Marie Perrier, ces années-là, je pense aux années 60, on les a déjà évoquées dans cette émission, et pas avec n'importe qui, mais avec des gens que vous connaissez bien, que vous avez bien connus, que vous avez immortalisés, dont vous êtes le témoin, les Johnny, les Françoises, les Sylvie, pour ne citer qu'eux. On les écoute.
Bien sûr que j'ai des idoles, mais moi, comme je suis assez fidèle, ça reste toujours Elvis, bien sûr.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie.
J'ai été tout seul un jour, j'ai pris l'avion pour Atlantic City, parce que c'était un des derniers concerts que Elvis donnait. Alors c'est vrai qu'évidemment, quand on a annoncé son nom, and now ladies and gentlemen, Elvis, c'est vrai que j'ai eu la chair de poule.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures.
À cette époque-là, il ne se passait pas de semaine sans que l'un de ses artistes sorte une mélodie à tomber à la renverse. Enfin, c'est la grande époque d'Elvis Presley, des Everly Brothers, de Brenda Lee. Et c'était ça qui m'intéressait.
Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais.
C'est qu'on oublie que dans les années 60-62, puisque moi j'ai démarré en 62, quand t'avais 16 ans, c'est comme si t'en avais 12 aujourd'hui.
J'étais excessivement naïve. Je crois que je suis restée assez longtemps De la naïveté découle l'idéalisme par la suite. On est assez idéaliste quand on est naïf jeune. Mais je crois que des filles comme Sylvie Vartan ou Sheila étaient aussi assez naïve, ignorante, on ignorait beaucoup de choses.
Tu portais pas de jeans, tu te maquillais pas, la majorité était à 21 ans, tu sortais pas.
On ne connaissait rien. Je dis toujours, on ne savait pas comment on faisait les enfants à 18 ans, 17 ans.
Vous saviez,
ans.
Vous
Non, pas du tout.
Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon.
Comme quoi la bille fait le moine dans ces cas-là, parce que tout d'un coup, on met un chapeau, on met une veste, on est quelqu'un d'autre. On se transforme, on est transformiste.
J'aime les filles de ces Castel. J'aime les filles de ces Régine. J'aime les filles qu'on voit dans elles. J'aime les filles des magazines.
Non mais j'ai toujours été un peu à l'écart de tous ces, milieux-là, hein. Sauf à certaine époque où j'étais musicien, enfin guitariste.
T'es devenu l'idole des jeunes.
J'étais déterminé, ça c'est sûr. J'ai persisté, il n'était pas question que j'en change.
Et Jean-Marie Perrier, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit quand vous entendez ça?
Il me vient à l'esprit que j'étais absolument sidéré par justement la détermination et le courage de ces mômes qui partait de rien. C'est ça le plus grand choc pour moi. Parce que moi, j'avais eu une enfance extraordinaire. Je connaissais tout le monde. Dans notre maison de Neuilly, tout le monde venait. Hein, tous les acteurs français, étrangers, tous les soirs, il y avait des dîners la nuit.
Vous dites que je connaissais tout le monde, et c'est intéressant parce que Françoise Hardy, elle dit qu'elle était ignorante, oui, qu'elle connaissait rien à la vie.
Non, mais moi, je vous parle de la jeunesse, de ma jeunesse. Or, justement, quand la première fois que j'ai photographié Françoise, par exemple, dans cette photo, elle est allongée sur son lit et il y a une étagère au mur avec des livres. Petite étagère, bon. Et tout à coup, ça m'a frappé parce que j'ai vu la différence entre nos deux enfances, nos deux parcours. Voilà, tout son univers, il était là.
C'était où? C'était quand?
C'était rue d'Aumale en 62, en septembre 62.
Et qu'est-ce que vous faisiez chez sa mère, Jean-Marie?
Non, mais j'étais chez la mère de Françoise.
Et pourquoi vous étiez là?
Pour faire des photos. C'est la première fois que j'ai photographié Françoise. Et ce qui m'avait fasciné, c'est la différence entre nos enfances. Moi, j'avais tout eu, toutes les chances. Hein, je veux dire, la maison de Neuilly que j'allais sur la Seine, là, j'allais jouer sur la péniche de Jean Cocteau et Jean Marais. Le soir, j'allais regarder ma mère danser au Club Saint-Germain. Enfin, c'était fou. Alors que elle, elle vivait avec sa mère, sa sœur, dans un petit appartement, hein, et elle ne connaissait rien. D'ailleurs, elle me l'a dit, elle n'avait jamais été au cinéma quand je l'ai rencontrée. Donc moi, c'est ça qui me touche, c'est tous ces jeunes gens. Sylvie Vartan, vous vous rendez compte, le parcours quand même. La môme qui arrive avec les valises en carton à 6 ans avec son père, hein, qui travaille au Halles, ils parlent pas français tous, mais c'est, les enfants, je veux dire. C'est extraordinaire. Vous voyez, d'arriver à ça. Et Johnny, qui est un petit Belge qui rêve d'Amérique, Je trouve ça extrêmement émouvant. Ça me touche et ça me touche encore.
La photo, vous y êtes arrivé un petit peu par hasard. Il paraît qu'un jour, vous étiez sur le tournage d'un film de Fellini, oui, avec votre père. C'était pour les nuits de Cabirias, je crois. Et que ne sachant pas que faire de vous, il vous a envoyé faire un stage à Paris Match. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Non, c'est-à-dire qu'il savait pas quoi faire de moi puisque j'avais arrêté la musique, moi. Donc, il comprenait pas parce que je l'ai jamais dit à mon père, bien sûr. Hein. Donc, il comprenait pas, je foutais rien en classe, et il m'emmène sur ce tournage extraordinaire de Fellini à Rome, et je glandais là sans vraiment comprendre ce que je voyais, j'aurais dû tout noter, et tout à coup, mon père demandait à tout le monde, mais qu'est-ce que je vais faire de lui, je sais pas quoi faire. Et c'est un journaliste très gentil qui s'appelait Beno Graziani qui lui a dit, quand on ne sait pas quoi faire de son fils, on le met à Paris Match.
Enfin, là, en l'occurrence, Jean-Marie, vous étiez sur un tournage, vous auriez pu devenir comédien.
Ah non, quand on a un père comme ça, on se risque pas à être comédien.
Pourquoi?
C'est très dangereux. Puis en plus, moi j'aimais pas tellement me montrer, j'ai toujours préféré montrer les autres.
Ouais.
On parle jamais mieux que de soi qu'en parlant des autres.
Alors, hein, ça veut dire que vous n'aviez jamais touché un appareil photo auparavant?
Ah non, c'est-à-dire que ma chance est extraordinaire, parce que le type qui me présente s'appelle Daniel Filippacchi. Bon, il était photographe, à l'époque, il avait quitté Match, il était à Marie-Claire, il faisait des photos de mode. Mais bon, il faisait des photos de mode comme ça parce qu'il aimait beaucoup les femmes surtout. Et cette chance extraordinaire, c'est que il faisait un journal de jazz et une émission de jazz quotidienne, ouais, qui s'appelait Pour ceux qui aiment le jazz. C'est-à-dire qu'au moment où je ferme mon piano, je me retrouve avec un mec qui me prend sous la main en exactement 3 secondes et qui me dit, bon, t'es mon assistant, ah bah tiens, tu vas partir en tournée, faire des photos. J'avais jamais fait de photos de ma vie, hein. Il me file un Leica, il me dit, bon, tu pars, tu vas retrouver la Fitzgerald, Dizzy Gillespie et Miles Davis, ils sont à Antibes, après vous allez en tournée. Bon, enfin, c'est extraordinaire. Et je me retrouve à 16 ans, j'en faisais 11 en plus, avec ces gens-là que j'avais écoutés toute ma vie.
Y a-t-il une autre façon d'apprendre la photo qu'en autodidacte, pour vous?
Ah, je ne crois pas aux écoles. Enfin, je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais pour moi, on apprend la photo en faisant. Mais d'aucuns vous diront, de toute façon, que je ne sais pas faire de photo, donc ce n'est pas grave. Mais c'est vrai, parce que le meilleur moyen pour apprendre la photographie pour un jeune photographe, c'est d'être assistant d'un photographe qui fait des belles photos.
Ça veut dire que vous avez progressé, Jean-Marie Perrier?
Alors, pas vraiment, parce qu'en réalité, très très vite, j'ai commencé à faire des photos qui étaient des mensonges, qui étaient des mises en scène, qui étaient du rêve. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que quand j'ai arrêté en 1974, j'ai arrêté de faire des photos, j'ai quitté tout. J'ai laissé donner mes appareils à des mômes qui démarraient, parce que j'étais tombé fou du tronc et que je voulais faire du cinéma. Donc j'ai arrêté la photo net. Et la chance a voulu que ma sœur Anne-Marie, dans les années 90, alors que je vivais à Los Angeles, et que je m'y ennuyais comme toute personne normalement constituée, elle me dit, mais pourquoi tu restes là-bas? T'as qu'à revenir, j'ai un journal.
T'as qu'à redevenir du magazine Elle.
Oui, t'as qu'à redevenir photographe, elle me dit. Et effectivement, donc je reviens immédiatement, et ma sœur me permet de faire avec les couturiers des années 90, finalement les mêmes genres de photos que ce que je faisais dans les années 60, c'est-à-dire des mises en scène. Donc, au fond, j'ai pas progressé du tout. C'est-à-dire, je suis passé de 74 à 90, j'ai repris le même fil, et pareil.
Et Ray Charles, vous l'avez photographié?
Oui, mais m'en souviens pas bien. J'en ai une photo de lui, parce que j'ai retrouvé, parce que vous savez, les photos, il y en a beaucoup qui ont été perdues, volées, tout ça, parce que ça n'avait pas d'importance. Les photos à l'époque, ça n'avait pas de valeur. Il y a très peu de temps que les photos ont de la valeur.
Ça veut dire que ça n'a pas toujours rendu immortelle une photo?
En tout cas, on n'y pensait pas.
Ray Charles, je vous en parle parce que quand je vous ai demandé de choisir une voix que vous aimeriez entendre, vous avez choisi tout de suite un de ses titres qui s'appelle Georgia on My Mind de 1960. Pourquoi ce titre?
Parce que c'était l'époque où je rêvais de faire de la musique et pour moi c'était un dieu vivant, lui.
On l'écoute?
Ah oui.
Ah bah ouais. Mais quelque chose me dit qu'on va en reparler de musique avec vous juste après ce titre, donc Georgia on My Mind 1960. Vous êtes sur France Inter avec Jean-Marie Perrier. Vous écoutez Boomerang un vendredi.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes
smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I say just an old sweet song.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
On ne va pas tourner plus longtemps autour du pot, il est le chic même. Hein. Quelque part entre James Bond et le prince Charles. Oh, le cheveu blanc, la petite mèche de bon aloi, la lunette ronde et curieuse, le sourire éclatant, il se tient bien droit dans sa veste bleue, vous savez, bleu roi, chemise blanche, petite pochette comme ça sur la veste. Et Jean-Marie Perrier, c'est vrai que la musique, ça a été une de vos plus grandes passions. Vous jouiez du piano, vous l'avez dit. Quand est-ce que vous avez commencé?
Ah, j'avais 5 ans. 5 ans, je faisais que ça. Mais c'est curieux, les gars, parce qu'il y avait un piano au fond à la maison, mais mon père n'a jamais rien compris à la musique. Lui, à part la Marseillaise, il savait pas ce que c'était que la musique, c'était les mots, lui. Et il y avait un piano, mais c'était de la décoration, en fait. Vous voyez, à l'époque, ça se faisait dans les maisons bourgeoises. Alors moi, je jouais du piano.
Là aussi, autodidacte.
Ah oui, complètement. Alors là, mais j'ai, complètement. Je passais ma vie à écouter des disques, bon, Frank Sinatra, Les Nuits de Noël, Sous le Sapin, j'écoutais des trucs terribles qui vous prend dans la tête.
Et
tout
vous
de
jouiez
suite.
Quoi sur votre piano, Jean-Marie Perrier,
de
petit
tout. Je jouais du classique, du jazz, je composais beaucoup.
Vous composiez quoi?
Ben, les musiques.
Des chansons?
Non, c'était des... Ah non, j'étais plus prétentieux que ça, non, je composais des musiques. Ah oui, non, j'étais sûr que c'était... Oh, c'était tellement bien. Je le regrette, hein. Ça, c'est la seule chose que je regrette, d'avoir arrêté la musique. Quoi. Ça, c'est vraiment une erreur que j'ai faite. Mais en même temps, comme c'est pour mon père, pour lui ressembler, lui qui m'a tout donné et à qui je dois tout, bon, donc je ne regrette pas.
François Perrier,
oui,
votre père. Quelque part, vous voir monter sur scène, comme vous l'avez fait récemment au Théâtre du Rond-Point, pour raconter quelques anecdotes,
oui,
de photographie, de votre vie, j'ai l'impression que ce n'est pas innocent que ça.
En réalité, ça l'est. Parce que, si vous voulez, on ne me parle depuis... 40 ans, que des années 60. Bon, j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie. Hein,
oui, mais vous ça, l'avez dit, les années 90 notamment.
Oui, mais ça compte pas. Bon, alors donc, je fais du cinéma, j'ai fait plein de choses.
C'est vrai.
J'écris des livres et tout. Bon,
on
tout
a parlé avec Jacques Dutronc de votre cinéma.
Oui, ah bah oui. Ah bah Dutronc. Ah bah attendez, là je suis perdu. Revenons à la question. Comme ça fait 25 ans pratiquement qu'on me pose toujours les mêmes questions sur les années 60. Donc je me suis dit, bon, ça va. D'abord, je répète toujours les mêmes choses parce que je n'ai pas de mémoire. Les photos vous aident à avoir, Dieu merci, un peu de mémoire, mais j'ai pas de mémoire, moi. Je suis un peu d'avis, d'ailleurs, de l'acteur américain Robin Williams, lorsqu'il disait, si vous vous souvenez des années 60, c'est que vous ne les avez pas vécues. Ce qui est vrai, parce que ça allait très vite, puis il y avait des fumées, tout ça, bon. Donc, je me suis dit, on me pose toujours la même question, je fais toujours les mêmes réponses, donc je vais aller leur raconter sur scène, pour le plaisir de voir des gens, parce que, n'oubliez pas que à 79 ans, si vous vous arrêtez, vous êtes cuit, vous glissez et hop, bonjour le trou. Ce qu'il faut, c'est jamais s'arrêter. Donc, faut se prendre des risques tout le temps, se mettre des défis. Monter sur scène, pour moi, il n'y a pas plus ridicule de le faire, étant donné que j'ai eu tous les exemples pendant toute ma vie de gens qui faisaient ça extraordinairement. Mais voilà, c'est pas pour me montrer moi, c'est pour parler d'eux. Il y a un grand écran derrière, j'ai fait une mise en scène avec des photos en mesure sur la musique. Et c'est formidable parce que je peux leur raconter vraiment tout ce que j'ai vécu de l'intérieur.
Dans ce spectacle, vous prononcez le nom d'Henri Salvador?
Jamais, c'est un nom que je ne prononce plus. C'est comme s'il n'avait jamais existé, mais c'est pour une autre raison et c'est pas intéressant. Bon, c'était un type qui avait énormément de talent, mais c'était pas un type bien, donc j'en parle plus.
Votre mère, la comédienne Jacqueline Porel,
ah,
qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle, de lui, quand vous lui avez appris que vous connaissiez la vérité?
Non, ma mère, elle m'a rien dit parce qu'elle était terrorisée par cette histoire, en réalité. C'est pas sa faute. C'est pas leur faute, d'ailleurs. C'est la faute de personne, à l'époque. Hein. Elle vit avec ce type qui est chanteur, qui est beaucoup drôle, doué, très, 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 très gay. Bon, c'est en 39, et puis tout à coup, il part, lui, à la guerre. Et puis, elle rencontre mon père, et puis, bon, voilà, tout à coup, je nais, et mon père voit une allumette brûlée, et dit, bon, bah, c'est mon fils, point barre, on n'en parle plus.
Quelle femme est-ce qu'elle était ?
Or, une femme d'une très grande beauté, qui était quand même la petite fille de Réjeanne, la grande actrice du début du XXe siècle.
Oui.
Donc, si vous voulez, c'est lourd à porter. Et elle était gaie, elle chantait tout le temps, elle dansait tous les soirs au Club Saint-Germain, elle aimait la vie, elle aimait les hommes, elle était très en avance sur son époque.
J'ai l'impression quand même qu'il y a plein de choses lourdes à porter, Jean-Marie Perrier.
Oui, bah, tout le monde. Mais elle est partie quand j'avais 7 ans. Voilà, ça c'est évidemment, c'était un choc, parce que elle embellissait ma vie quand même, ma mère. Bon, et puis, il y avait mon frère, ma sœur et moi, on s'est retrouvés tout seuls dans cette grande maison de Neuilly, parce que ma mère était partie. Et c'est vrai que c'est un premier choc dans ma vie, parce que j'ai eu quand même le sentiment que quand ma mère est partie, j'ai eu le sentiment que c'est une femme qui me quittait. Bon, alors bon, les psys y vont, et hop, ça y va là. Mais non, c'est vrai, c'est un manque énorme à l'époque. Bon,
on écoute sa voix, tous les deux là maintenant.
Ah, ma petite mère, mais bien sûr.
Sa voix que les auditeurs risquent d'associer à une certaine Audrey Hepburn.
Il n'a pas de nom, le pauvre. Pour l'instant, je n'ai pas le droit de lui en donner un. Ce que je pourrais lui attribuer en ce moment serait indigne de lui. Je le baptiserai quand je pourrai vivre dans un endroit élégant où ma personnalité s'épanouira. Une sorte de Tiffany. Vous savez, il y a des jours où on se met à broyer du noir. Quand ça m'arrive, la seule chose qui me remet l'aplomb, c'est de sauter dans un taxi et de me faire conduire chez Tiffany. Ça me calme les nerfs tout de suite. Si tranquille, si majestueux que l'on sent que rien de grave ne peut vous arriver dans un tel endroit. Moi, si un beau jour je trouvais un appartement qui me fasse le même effet que Tiffany, je le prendrai, je le meublerai, je donnerai un nom au chat instantanément.
Votre mère, Jean-Marie Perrier, Jacqueline Porel, qui était comédienne, mais qui faisait aussi du doublage, on l'entend ici doubler Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé. Ouais. Quel effet est-ce que ça fait de l'entendre?
Aujourd'hui, je suis ému. À l'époque, ça me gâchait les films. Parce que bon, j'allais au cinéma et j'entendais maman, alors que sur l'écran, il y avait quelqu'un d'autre. Donc c'est très, très énervant. Mais c'est beau, le fait, elle a fait beaucoup de doublage dans sa vie, parce qu'au fond, elle aimait pas être sur scène, ça l'intéressait pas, elle. C'était une merveilleuse actrice, mais ça ne l'intéressait pas profondément. Elle avait pas envie d'être connue, elle avait pas envie d'être vue. Mais bon, ça vient de famille.
En préparant cette émission, vous m'avez écrit que c'était elle, votre premier choc esthétique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Elle m'a fait rêver. Puis en plus, elle avait une façon de me parler, de me toucher, même la main. Les enfants, elles savaient pas très bien comment s'en sortir avec ça, finalement. Et moi, ça me troublait beaucoup. Donc, voilà, je sais pas pourquoi j'ose dire ça à la radio, mais j'en ai un souvenir, oui, très, très ému, et en même temps...
J'ai l'impression qu'au fond, ça dit quelque chose de votre conception, de la pratique artistique, Jean-Marie Perrier. C'est comme si c'était toujours pour réparer, pour vous consoler de quelque chose, au gré de fuite, au gré de changement de vie.
Oui, mais c'est parce que je pense que rien n'est vraiment sérieux de toute façon. À partir du moment où je fais pas de musique, rien n'a d'importance, ni rien n'est sérieux. Et ma chance, c'est d'avoir été finalement assez doué, parce que je pouvais faire n'importe quoi. Car j'ai fait n'importe quoi, quand même. Hein.
N'importe quoi.
Et sans apprendre. Je fais du cinéma, j'ai pris une caméra, boum, en avant, je suis parti. Vous vous rendez compte que j'ai même pas le certificat d'études, et que j'ai commencé à écrire des livres. Faut quand même être gonflé. Alors, bon, personne les lit, c'est pas grave, mais en tout cas, je les écris. C'est quand même très, très, très présomptueux.
Mais au fond du fond, qu'est-ce qui vous console?
Ce qui me console? Non, une musique me console, oui. Mais une musique, ça vous repart, passe en arrière, c'est, non. Non, ce qui m'inquiète surtout, c'est, d'abord, j'ai horreur d'être vieux. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. On raconte beaucoup de bêtises là-dessus. Il me reste quoi? 15 printemps, hein, d'opérationnel. Bon, on peut vivre après, mais enfin, je le souhaite à personne, c'est sûrement pas facile.
On peut vivre très bien, très vieux, maintenant.
Oui, ça, c'est ce qu'on raconte dans les journaux, hein. Moi, je, allez dans les EHPAD, vous verrez. Non, non. C'est très, très compliqué. Et l'autre jour, je me souviens, j'étais avec ma chienne, j'avais été à Lille pour une exposition, et je me dis, tiens, mais j'ai jamais vu les falaises de Carteret, ça s'appelle, c'est pas, c'est là où il y a un trou dans la falaise, là.
Attention à ce que vous allez dire, là.
Pourquoi?
Étretat.
Ah oui, Étretat. Carteret, c'est où? Enfin, bref. J'avais vu cette photo, toute ma vie, je l'ai jamais vue. Je dis à ma chienne, on va aller voir les falaises d'Étretat. Et je me suis allongé dans l'herbe, et tout à coup, je me suis dit, j'étais bien, c'était magnifique. Et tout à coup, je me suis dit, tiens, c'est la dernière fois que je suis là. Et oui, c'est ça être vieux.
Et je vous emmenais à être temps vert tourné tous les deux. Moi. Ce sera pas la dernière fois comme ça. Chiche.
Absolument.
Eh ben, on va y aller. Alors. Merci infiniment, Jean-Marie Perrier, d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci pour la générosité avec laquelle vous nous avez permis de clore cette semaine. Merci à vous et à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léonard Billot, Pierre Martinerie, Paul Guillotte et Jean-Baptiste Audibert. À lundi, les amis, tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après, et trop tard.
Une de perdue, une de perdue. Autant dire les choses comme elles sont. Il y aura quand même de la peine, tant qu'on se rappelle de la veille. Et j'étais pas dégoûté, mais tu m'auras donné raison. À vouloir faire de la merde, t'avais le pouvoir de l'admettre.
Et toujours pareil pour les excuses. Désolé mais toutes mes ex s'usent. C'est mieux que toi, la tête pourtant posée sur son plexus. Y'a des fuites comme dans une écluse.
Tu sais très bien.
Et y'a des buffes même dans les églises. J'étais pas vraiment un mec lisse. Plusieurs fois j'ai considéré ça comme un versus, alors qu'il fallait un mec pisse. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille, on doit se laisser tranquille, on doit se laisser tranquille. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille, on doit se laisser tranquille.
Et là t'es où, tu fais quoi? T'écoutes mes textes? J'en suis certain car les jalouses sont toutes les mêmes. Sous mes airs, j'en souffre encore. Courant d'air dans parcours en or. Avec qui tu sors, avec qui tu me. Pourquoi ça m'intéresse? Mon talent m'a rendu célèbre, le pouvoir ça rend fêlé. L'amour ça rend bête, ça prendra toute l'énergie sans même faire de parenthèse. Pourquoi tu réponds pas? Je sais que t'entends les appels. J'arrive pas à croire que t'es réussi à tout zapper. Tu fuis de façon minable. On dirait les personnages qui font de la course à pied. Ou peut-être que c'est moi qui suis parano. J'ai trop fumé de pétard et je veux finir à la gueule. Commencer la soirée comme faisaient les Ramones. Et la finir éclater, partir comme un petit rameau. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille.
Malade, Roméo et Elvis sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers, l'instant M. Vous m'entendez, Sonia?
Mais oui, Augustin, on est là, on est au taquet et on se retrouve lundi. Ciao!